Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est vrai que quand on a décidé d'organiser la réunion de ce soir, on ne savait pas qu'il y aurait l'actualité. Mais bon, même si c'est un peu trash de le dire comme ça, j'ai envie de dire que ça tombe bien, puisque ça vient à l'appui et ça vient illustrer une partie des choses que j'avais l'intention d'essayer d'aborder avec vous ce soir. Une chose avant de commencer, merci de m'avoir présenté de manière élogieuse. Je voudrais préciser quelque chose, ce qui permettra de comprendre la suite et la forme et le contenu de ce que je vais vous dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, j'ai une étiquette de chercheur, machin, les bouquins, les articles, la télé, les conneries, tout ça. Mais moi, ma porte d'entrée sur la question palestinienne, c'est une entrée militante. C'est-à-dire que c'est d'abord dans une démarche de solidarité avec les Palestiniens que je me suis intéressé à cette question, et que c'est en raison de cet intérêt et en raison de la volonté de m'impliquer dans le mouvement de solidarité, que j'ai estimé que c'était utile, finalement, de travailler dessus, de manière approfondie, dans le cadre universitaire. Parce que, bon, ça commence à faire longtemps maintenant, mais la première fois où moi je suis allé dans les territoires palestiniens, c'était au début de l'année 2001, au moment de ce qu'on a appelé la deuxième intifada. Et après avoir passé du temps là-bas, et puis d'y être resté, hein, d'y être installé, j'ai été vachement frappé par le décalage qu'il y avait en France, et y compris dans le mouvement de solidarité. Un double décalage. Le premier, c'était dans finalement la compréhension de ce qu'était réellement l'occupation. C'est-à-dire qu'on avait tendance à résumer l'occupation à un phénomène de violence militaire. C'est-à-dire, voilà, ils se font tirer dessus, ils se font taper dessus, ils se font tuer, ils se font blesser. Et finalement, on percevait beaucoup moins bien, mais c'est normal finalement, ce qu'est l'occupation du quotidien et ce que fait l'occupation aux gens, et notamment ce qu'elle fait dans les têtes. Un jour, c'est un copain palestinien qui m'a dit l'occupation pour les Palestiniens, elle commence là. On est occupé dans nos têtes. On est occupé dans nos têtes, et finalement, ça structure absolument tout dans nos vies quotidiennes, et ça structure absolument tout dans notre façon de voir le monde, de voir la solidarité, de voir l'activité politique, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, et donc j'ai eu envie de travailler sur la société palestinienne, le champ politique palestinien, ses évolutions, etc., etc., avec finalement 15 ans plus tard, le bouquin qui va sortir sur les ONG, qui est finalement la somme de ces 15 années de boulot sur les évolutions dans le champ politique palestinien, et sur finalement, voilà, de comprendre que l'occupation, c'est un phénomène qui est visible par la présence militaire, mais que l'occupation, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui structure une société et qui permet de comprendre, y compris pourquoi, par moment, eh ben, il n'y a pas de lutte là-bas. Pourquoi il n'y a pas de lutte? Parce que, et c'est le deuxième décalage que moi j'avais ressenti, c'était une espèce d'image très romantique du peuple palestinien. Le peuple palestinien uni dans les rues, drapeau à la main, en lutte contre l'occupant, etc., etc. À ce moment-là, c'était en partie vrai, fin de l'année 2000, début de l'année 2001, mais seulement en partie. Parce que la société palestinienne, c'est comme toutes les sociétés dans le monde, il y a des intérêts contradictoires qui s'expriment à l'intérieur, il y a des courants politiques qui sont différents, c'est pas pour rien. Il y a des contradictions de classe, il y a des contradictions de genre, il y a des contradictions à tous les niveaux, comme dans toutes les sociétés. Et finalement, quand bien même on peut dire que le peuple palestinien collectivement subit l'oppression de l'État d'Israël, ça ne signifie absolument pas que de tout temps, en tout lieu, collectivement, il résiste à l'oppression. Et bien au contraire, au cours finalement des 10 dernières années, et c'est ce que viennent nous rappeler ces jeunes qui descendent dans les rues là depuis quelques semaines, bien au contraire, depuis une bonne dizaine d'années, on a eu des mécanismes de dépolitisation de la société palestinienne. Il n'y a plus de piles, je pense, dans le micro. Donc, non, mais à mon avis, il est en train de mourir. Des mécanismes de dépolitisation, des mécanismes d'exclusion de franges entières de la société palestinienne du champ politique. Et c'est ça qui permet aussi de comprendre pourquoi, au-delà finalement de la justesse de la cause palestinienne et de la non-résignation du peuple palestinien, eh ben non, tous les Palestiniens, tous les jours, ne luttent pas contre l'occupation. Dit comme ça peut paraître trash, mais je vais essayer d'expliquer ce que ça signifie et ce que ça implique, ces dernières choses de cette introduction, par rapport à la solidarité. C'est que moi, j'ai jamais eu une vision de la solidarité qui était quelque chose d'abstrait. C'est-à-dire de dire on est solidaire des Palestiniens parce qu'ils sont opprimés et donc il faut soutenir les Palestiniens. Oui, ça c'est juste. Sauf qu'à un moment, la solidarité, c'est quelque chose de concret. Et moi, si je suis solidaire, c'est pas pour avoir raison et c'est pas pour être dans l'histoire comme avoir été dans le camp de la justice. Si je suis solidaire, c'est pour qu'on gagne. C'est pour qu'on gagne et c'est pour que les Palestiniens gagnent. Donc ça veut dire que la solidarité, il faut qu'elle soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'on comprenne ce qui se passe là-bas, qu'on comprenne les évolutions et qu'on comprenne que bah, la solidarité, en fonction des rapports de force et des contextes, eh bah, c'est pas toujours la même chose. Ce n'est pas toujours les mêmes activités, ce n'est pas toujours les mêmes interlocuteurs là-bas, ce n'est pas toujours la même forme d'action qu'on va avoir ici, parce que sinon, en fait, on est solidaire pour nous-mêmes, on est solidaire pour dire qu'on est solidaire et apparaître comme étant des gens du mouvement de solidarité, mais en se préoccupant assez peu de l'impact ou non de notre solidarité là-bas, parce que finalement, c'est ça qui doit la guider, c'est ça qui va guider mon intervention, c'est de dire que la solidarité avec les Palestiniens, disons que sa pertinence se mesure à la lumière de son efficacité là-bas et de est-ce que ce qu'on fait est utile, oui ou non, pour le peuple palestinien. Pour commencer, parler de l'actualité. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que depuis quelques semaines, il y a eu un regain d'actualité médiatique, en tout cas d'attention médiatique. Sur Israël et les territoires palestiniens. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines? On a eu une multiplication des incidents opposant des jeunes palestiniens et des soldats israéliens, des colons israéliens et parfois des gens qui n'ont pas le statut entre guillemets de colons en Israël même, avec notamment la multiplication d'un phénomène qu'on nous présente comme nouveau, mais qui ne l'est absolument pas, des attaques au poignard, et non au couteau, au poignard, c'est pas la même chose, on ne cherche pas à découper les gens, voilà. Non, mais dans les mots, c'est important aussi, des attaques au poignard menées par des jeunes Palestiniens, et souvent des très jeunes, très très jeunes Palestiniens. Et quand je dis très très jeunes, c'est que le plus jeune d'entre eux, il avait 13 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un gamin de 13 ans qui un jour dans sa tête se dit je vais prendre un couteau et je vais essayer d'aller tuer un soldat en sachant parfaitement qu'il n'en sortira pas vivant parce que c'est ça finalement qui est un petit peu agaçant mais j'aurai l'occasion d'y revenir dans ce qu'on entend de la part de certains de nos intellectuels qui essayent d'analyser le couteau ou le poignard, mais eux ils disent le couteau, et finalement son côté fourbe, parce qu'on ne peut pas repérer quelqu'un qui a un couteau, et finalement c'est l'arme du lâche, le couteau. C'est vrai qu'un drone piloté depuis Tel Aviv, tranquille devant ton ordinateur, où tu appuies sur un bouton pour choper des gens qui sont à 20 km, c'est beaucoup plus courageux, bien sûr. Les jeunes Palestiniens qui font ça savent qu'ils vont mourir au moment où ils le font. Et si certaines d'entre vous ont vu des images, les choses sont très claires. C'est-à-dire que la société israélienne est tellement ultra militarisée qu'à partir du moment où un incident de ce type-là se produit, vous avez dans les 10 secondes 12 personnes armées autour de la personne et ils tirent dessus. Voilà. Donc ce qu'on a depuis quelques semaines, c'est cette réémergence d'une violence dirigée contre les Israéliens. Et finalement. Et bon, pour ceux qui ont regardé la télé hier soir, ils vont entendre des choses qu'ils ont entendues hier, mais finalement, une fois de plus, on reparle de la situation en Israël et dans les territoires palestiniens parce que des Israéliens subissent de la violence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de violence subie par les Israéliens, on ne parle pas de la situation là-bas. La dernière fois qu'il y a eu de l'actualité, entre guillemets, sur la question palestinienne, c'était au moment de Gaza en 2014, parce qu'il y avait des tirs de roquettes. Aussi parce que les Palestiniens se sont fait bombarder. Mais on en parle quand il y a des victimes israéliennes aussi. Sinon, on n'en parle pas. Et du coup, on entretient cette fausse illusion qu'entre ces deux, enfin, entre deux de ces séquences-là, finalement, la situation serait normale. Et donc, il n'y aurait pas de violence. Alors que Bien évidemment que non, la situation n'est pas normale. Et ce que ces jeunes Palestiniens rappellent au monde depuis plusieurs semaines, c'est que non, la situation n'est pas normale, et que non, ils n'accepteront pas que l'on considère que la normalité, c'est l'occupation, c'est la colonisation, c'est les humiliations quotidiennes, c'est les expulsions, c'est etc., etc., etc. Et je voulais commencer par ça parce que finalement, c'est parti, entre guillemets, de Jérusalem. C'est parti de Jérusalem. Hier, et puis à d'autres occasions, j'ai eu l'occasion de discuter, de débattre avec des gens très intelligents qui expliquaient, ça a commencé il y a 3 semaines, ou il y a 4 semaines, ou il y a 6 semaines, et trouver l'élément déclencheur. En fait, c'est parce qu'il y a un mec qui a fait un appel, voilà, c'est parce qu'il y a eu une provocation sur l'esplanade des mosquées, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Non, non, non. Jérusalem, aujourd'hui, est une ville occupée par l'armée israélienne. Les Palestiniens de Jérusalem-Est subissent un régime d'oppression et de discrimination systématique depuis maintenant 1967. La situation des Palestiniens de Jérusalem est intenable, et elle est intenable depuis fort longtemps. Et il suffit pour ça de lire les rapports des ONG, y compris des ONG israéliennes, de lire les rapports des diplomates de l'Union européenne, qui ne sont pas des islamo-gauchistes ou de dangereux bolcheviques. Le dernier rapport des diplomates de l'Union européenne, qui date de mars dernier, tire la sonnette d'alarme. Dit, à cause de la politique de colonisation, à cause des expulsions, à cause de ce que subissent les Palestiniens, tôt ou tard, la situation va exploser. Et on est en mars dernier. Et c'est à ce moment-là que les diplomates de l'Union européenne... Par ailleurs, répétant des choses qu'ils avaient déjà dit l'année d'avant, et répétant des choses qu'ils avaient déjà dit 2 ans avant. Et c'est-à-dire que finalement, on a une cocotte minute, une poudrière, si vous voulez, qui s'appelle Jérusalem-Est, dont on parle peu, en général, y compris dans le mouvement de solidarité. Juste pour donner quelques éléments, Jérusalem-Est, c'est 300 000 Palestiniens qui y vivent. 300 000 Palestiniens qui ont un statut juridique absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni citoyens israéliens, ni citoyens palestiniens, ce qui est intéressant. C'est-à-dire que sauf s'ils font les démarches nécessaires et avec tous les obstacles bureaucratiques, etc., ils sont apatrides, ou éventuellement de nationalité jordanienne, ce qui est intéressant aussi. Pourquoi ils ont cette situation-là? Parce qu'ils font partie de cette population, c'est comme les latinos qui habitent dans le sud des États-Unis, qui les premiers avaient dit ça. Ils disaient, nous on n'a pas traversé la frontière, c'est la frontière qui nous a traversés. C'est-à-dire que nous on n'a jamais demandé à être dans votre pays, c'est votre pays qui est venu. Et bien pour les Palestiniens de Jérusalem, c'est la même chose. Ils n'ont jamais traversé la frontière. C'est la frontière qui les a traversés au moment où Israël a décidé d'annexer la partie orientale de Jérusalem. Donc ils se sont retrouvés annexés de fait à Israël, mais sans les droits qu'ont les Israéliens. Parce que, bien évidemment, leur accorder les droits, ça voulait dire, à l'époque, 150 000 ou peut-être 100 000, je ne sais plus, c'était 100 000 à peu près, ça voulait dire 100 000 non-juifs de plus dans l'État d'Israël. Donc ça, c'était intolérable, évidemment, pour les Israéliens. Mais en même temps, on ne leur reconnaît pas un statut de Palestinien. Parce que reconnaître qu'ils pourraient être Palestiniens, ça serait reconnaître que Jérusalem fait partie de la Palestine. Ce qui, de nouveau, est intolérable pour les autorités israéliennes. Et donc, les Palestiniens de Jérusalem-Est ont un statut de résident. Voilà, ils sont résidents. C'est-à-dire, c'est comme s'ils étaient tolérés et c'est reconduit régulièrement, ou non, leur statut de résident. Ils sont dans leur pays, dans la ville où ils sont nés, ils n'ont jamais bougé, c'est-à-dire, voilà, ils ne se sont pas déplacés, mais ils sont devenus des résidents. C'est-à-dire qu'ils sont des invités permanents. C'est un ancien maire de Jérusalem qui avait dit ça. Sympa, hein. Vous êtes invité permanent à Jérusalem, mais déconnez pas, sinon, quand même, on n'invite pas n'importe qui chez nous. Et donc, ils ont ce statut très, très précaire, très fragile, qui s'accompagne de discriminations systématiques d'un point de vue des politiques municipales et nationales israéliennes. Je ne vais pas vous assassiner avec des chiffres, mais sachez qu'aujourd'hui, à Jérusalem-Est, on estime que 75% de la population palestinienne vit sous le seuil de pauvreté. C'est les derniers rapports des ONG. Et que près de 85% des enfants, donc des moins de 18 ans, vivent sous le seuil de pauvreté. c'est des chiffres qui sont comparables à ceux de la bande de Gaza. Voilà, pour information. Et c'est en plein cœur de Jérusalem, cette magnifique ville touristique, etc. Vivre sous le seuil de pauvreté. Vous avez environ 20 000 logements palestiniens qui représentent les habitations de 100 000 personnes, donc un tiers de la population de Jérusalem, qui sont sous le coup d'ordre de destruction, parce que les autorités israéliennes considèrent qu'ils ont été construits illégalement. Parce qu'en fait, les Palestiniens de Jérusalem-Est n'obtiennent jamais de permis de construire. Donc ils sont bien obligés de construire quand même, et donc c'est illégal. Et donc là, vous avez un tiers des Palestiniens, des habitants de Jérusalem-Est, qui sont sous le coup d'un ordre de démolition de leur logement. Vous avez des procédures de contrôle, etc., comme dans d'autres parties de la Palestine, et de harcèlement quotidien des Palestiniens qui sont en cours à Jérusalem. Et vous avez en plus une politique de la part de l'État d'Israël de prise de contrôle progressive des lieux saints de Jérusalem, qui est une réponse à la montée en force des courants nationalistes religieux, etc. Et c'est tout ça le cocktail duquel on parle. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça explose? Et bien ce qui fait qu'à un moment ça explose, c'est comme toujours dans l'histoire de la lutte palestinienne, mais aussi dans l'histoire finalement de la plupart des soulèvements populaires. C'est des effets de génération. C'est des effets de génération. C'est-à-dire que là, c'est une génération palestinienne qui arrive entre guillemets à maturité et qui a décidé qu'elle allait se faire entendre. L'histoire de la lutte nationale palestinienne, elle est scandée par des séquences générationnelles. Vous avez la génération de 48 qui était la génération de la Nakba. Vous avez eu la génération de 67 qui était la génération de l'occupation. Vous avez eu la génération de la première intifada. Vous avez eu la génération de la deuxième intifada. Et on était pas mal à se dire depuis quelques années, il y a une génération qui va débouler là. Sauf que eux, on ne sait pas bien ce qu'ils vont faire. On ne sait pas bien ce qu'ils vont faire parce que, un, l'encadrement politique est très faible. J'aurai l'occasion de revenir d'expliquer pourquoi. Et deux, ils subissent une politique d'oppression que leurs aînés n'ont pas subie, pas à ce point-là. Et c'est-à-dire que se combinent violence subie au quotidien et absence totale de perspective et de lieu d'organisation commun. Et c'est ça qui permet de comprendre pourquoi se multiplie ce phénomène d'agression individuelle au poignard. C'est des trucs totalement non coordonnés, non organisés. C'est-à-dire il n'y a pas de direction politique derrière qui dit toi demain tu vas aller, etc. C'est des gens, ils se lèvent un matin et puis peut-être ce jour-là ils se disent bon bah moi j'y vais. Parce que la veille il leur est arrivé un truc, parce que 2 heures avant il leur est arrivé un truc, parce que leur père s'est fait arrêter, parce que leur pote s'est fait tuer, etc. etc. C'est un truc réflexe et c'est en train de se diffuser de plus en plus et donc pas seulement à Jérusalem. Puisque ce dont on se rend compte une fois de plus, c'est que quand ça pète, entre guillemets, quelque part dans les territoires palestiniens, ça fait immédiatement, ça contamine, comme disent les médias avec la métaphore de la maladie, ça contamine le reste. Et aujourd'hui, vous avez des manifestations à Gaza, à Bethléem, à Ramallah, à Naplouse, à Hébron, à Jérusalem, en Israël même, avec les Palestiniens d'Israël qui manifestent, qui se mobilisent. Et c'est pas seulement en solidarité avec. Vous avez des mécanismes de solidarité entre les différentes zones, mais vous avez surtout l'expression de l'existence d'un peuple qui subit la même oppression, même si elle se décline différemment selon les lieux où vous habitez. Et donc, ce à quoi, et je terminerai avec ça ce premier point, ce à quoi on assiste depuis quelques semaines, c'est tout simplement l'émergence, ou en tout cas l'apparition publique, on va dire, la visibilisation, le mot est moche, mais compréhensible, d'une génération palestinienne très jeune. Voilà, ils ont entre 13 et 20 ans, la plupart. Vous regardez la liste de ceux qui se sont fait tuer, les 80% à moins de 20 ans. Donc l'émergence, il déboule, voilà, sur la scène de la lutte contre l'occupation. Et ils se font entendre comme leurs aînés se sont fait entendre par le passé. Alors ils ne le font pas de la même façon. Ils ne le font pas de manière polie. Ils ne sont pas venus frapper à la porte pour demander des droits. Parce que, et c'est le deuxième point que je voulais évoquer, le caractère nouveau, il y a des éléments de continuité, il y a des éléments de rupture, mais le caractère nouveau du soulèvement ou du début de soulèvement, c'est pas évident à dire de ce à quoi on est en train d'assister, c'est que finalement, on a des gens qui font, consciemment ou non, le bilan des réussites et des échecs des soulèvements précédents. C'est-à-dire qu'il y a des traditions politiques qui se transmettent. Et finalement, autant la génération qui avait fait le soulèvement de septembre 2000, c'était une génération qui était, on pourrait dire, une génération des déçus des accords d'Oslo. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en 93, 94, avaient cru qu'on rentrait, voilà, dans une nouvelle ère, ça allait être la paix, on allait finir par avoir un État. Et puis, la frustration accumulée pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, a fait qu'au bout d'un moment, tout a explosé. Et en fait, ce qu'on est en train de voir là, cette génération-là, j'arrive pas encore à trouver le nom, mais moi je l'appelle la génération post-Oslo. C'est la génération post-Oslo. C'est-à-dire, pour expliquer ça, il faut que j'aille vite quand même, mais que je parle de ce qu'étaient les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'était finalement cette idée un peu folle qu'on allait pouvoir contenir la question palestinienne. En offrant généreusement aux Palestiniens la possibilité de s'autogouverner dans des zones dites autonomes, toutes petites, avec la promesse future d'un État, tout en exigeant des Palestiniens qu'ils soient capables d'assurer la sécurité de l'État d'Israël, et c'était la condition pour qu'ils aient un État. Pour le dire autrement, toute la Palestine était occupée jusqu'en 1993. L'armée israélienne s'est retirée d'une partie des zones qu'elle occupait, en gros les villes et les camps de réfugiés, les zones les plus densément peuplées, a donné les clés de la boutique à une administration qu'on a nommée Autorité palestinienne. Alors l'Autorité palestinienne s'est renommée d'elle-même Autorité nationale palestinienne. C'est mignon. Mais son vrai nom dans les accords d'Oslo, c'est Autorité d'autogouvernement intérimaire. Bon, ça fait moins rêver que Autorité nationale. Sauf que c'est beaucoup plus proche de ce qu'était la réalité. Autorité d'autogouvernement intérimaire. Ça voulait dire quoi? Une administration palestinienne qui prend en charge les zones dites autonomes et qui verra sa souveraineté s'étendre au fur et à mesure qu'elle fera la démonstration qu'elle fait le job dans les zones qui lui ont été confiées. Le job, c'était quoi? C'était répartir les aides internationales qui affluaient par centaines de millions de dollars depuis l'Union européenne et les États-Unis. Les répartir dans la population palestinienne pour essayer de maintenir un niveau de vie pas bon, mais pas trop mauvais, mais contenir en partie la colère, et le cas échéant, jouer un rôle de force de répression. Voilà. Je vais vite là-dessus, mais juste un chiffre qui est intéressant. En septembre 2000, au moment où ça explose, il y a 140 000 à peu près fonctionnaires dans l'autorité palestinienne, dont environ 65 000 flics. C'est-à-dire presque un fonctionnaire sur deux était dans un service de police ou de sécurité, ce qui représentait un taux d'encadrement policier de la population supérieur à l'Égypte de Moubarak, à l'Irak de Saddam Hussein ou à la Syrie des Assad. Sachant que vous ajoutez à ça l'armée d'occupation. Donc quand même bon contrôle quoi sur la population. Et les Palestiniens en septembre 2000 s'étaient soulevés contre ça. Avait dit, écoutez, au bout d'un moment, on ne va pas renoncer à nos droits sous prétexte que, avant de les obtenir, il faudra qu'on fasse la démonstration qu'on les mérite. Parce qu'un droit, c'est un droit. Un droit, on n'a pas besoin de prouver qu'on le mérite. Un droit, on a le droit de l'avoir. Et donc, c'était contre ça qu'ils s'étaient soulevés. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est finalement l'expression du fait que la période d'Oslo est finie. La période d'Oslo est terminée. Les jeunes qui se soulèvent aujourd'hui ne se soulèvent pas pour demander d'obtenir un État palestinien indépendant. Les jeunes qui se soulèvent aujourd'hui ne se soulèvent pas pour dire il faut respecter nos dirigeants. Les jeunes qui se soulèvent aujourd'hui ne se soulèvent pas pour dire il faut reprendre les négociations ou ce genre de choses. Absolument pas. On n'en est plus là. C'est terminé. Les jeunes qui se soulèvent aujourd'hui, ils disent tout simplement ras-le-bol. Voilà. Ras-le-bol de l'oppression. Ras-le-bol de la discrimination, ras-le-bol de l'occupation, et on est prêt à mourir, hein, très clairement, on est prêt à mourir pour que cette situation se termine. Et finalement, on est en train de sortir, c'est bon, les gens qui ont lu ou entendu parler de Gramsci, le penseur italien, sauront à quoi je fais référence. On est dans le début de la fin, je pense, de la crise que traversait le mouvement national palestinien, au sens où Gramsci définissait la crise. Gramsci disait la crise, c'est quand l'ancien n'est pas encore mort et que le nouveau n'arrive pas à naître. Et ben là, on est peut-être dans le moment où les choses commencent à se débloquer. Parce que Oslo n'était pas complètement mort, en tout cas dans la tête d'une partie de la direction palestinienne, y compris d'un point de vue administratif. Vous avez toujours un truc qui s'appelle l'autorité palestinienne aujourd'hui, enfin, qui ont un président qui s'appelle Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, il exerce sa souveraineté sur sa salle à manger, quoi, maximum. Il lui faut un permis israélien pour aller faire ses courses, quoi. Donc, bon, vous avez toujours ce truc qui existe. Mais qui petit à petit est en train de crever et qui ne survit que parce qu'il est hyper financé par les pays occidentaux qui chaque mois versent des centaines de millions pour ensuite redistribuer l'argent à la population palestinienne. C'est la seule chose qui les fait tenir. C'est absolument pas un attachement politique de la part de la population palestinienne à cet appareil ou à ses dirigeants. Je veux dire, bon, moi je suis pas fan pas fan des sondages. J'ai lu mon Bourdieu, j'ai appris que les sondages c'était mal et que ça ne reflétait pas grand-chose. Mais au bout d'un moment, il faut tenir compte des évolutions. Et si on s'intéresse aujourd'hui à la popularité des dirigeants de l'autorité palestinienne à l'intérieur des territoires palestiniens, enfin, je veux dire, même François Hollande, il est dans la stratosphère, quoi, hein. Eux, c'est plus personne ne veut entendre parler d'eux. Et donc, on a là une génération qui est le produit de la crise du mouvement national palestinien, de la crise d'Oslo, de la crise du projet des deux États, et qui est en train de tout chambouler. Voilà, ils sont en train de tout chambouler. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de projet politique alternatif aujourd'hui, il n'y a pas de stratégie collective alternative aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation qui peuvent prendre en charge les choses. Là, hier soir, j'en avais, mais bon, c'est pareil, vous les connaissez, vous les entendez dans les journaux, ceux qui expliquent que tout ça est préparé, organisé, manipulé, instrumentalisé par le Hamas ou par telle fraction de l'OLP, tout ça. Ils contrôlent rien, ils ne contrôlent rien du tout. Vous n'avez pas un, il y en a un seul, sur les jeunes qui sont passés à l'attaque, etc. Vous n'en avez pas un qui est organisé politiquement. Pas un. C'est des gens qui ne sont pas issus du mouvement national palestinien traditionnel. Et par ailleurs, ça rappelle les débuts de la première intifada, où les gens qui étaient descendus dans les rues, etc., les premières arrestations, moi j'avais eu l'occasion de travailler là-dessus, sur les premières vagues d'interpellation, etc., c'était très peu de gens qui étaient organisés politiquement. Sauf qu'à l'époque, il existait un mouvement national palestinien, pas complètement détruit et légitime dans la population palestinienne, qui avait pu, en s'unissant, donner des perspectives. Et non pas dire, bon, les jeunes, rentrez à la maison, vous êtes un peu concon, vous n'avez pas de projet. Non, dire, bon, là, on rentre dans une phase de lutte collective contre l'occupation, on va se fixer des trucs. Voilà, tout le monde va faire la grève tel jour, tout le monde va manifester tel jour, on va essayer d'organiser des trucs de boycott, on va essayer d'organiser l'autosuffisance économique. Vous aviez eu toute une démarche d'organiser collectivement le retour à la terre, c'est-à-dire voilà, tout le monde plantait des trucs dans son jardin pour pouvoir ensuite distribuer de la nourriture et s'émanciper de la tutelle israélienne. Vous aviez un système éducatif parallèle qui s'était mis en place parce qu'Israël avait fermé toutes les écoles et les universités, etc. Aujourd'hui, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez rien parce que personne ne peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Et finalement, et ça sera le troisième point que je voulais évoquer, finalement, tout ça est quelque part salutaire. Quelque part salutaire. C'est-à-dire qu'il faut en passer par là. C'est triste à dire, c'est malheureux à dire. La situation actuelle est très contradictoire. Ce qu'elle dit dans le mail, c'est qu'il y a un côté enthousiasmant et un côté terrible. Il y a un côté terrible parce que la répression est terrible. Mais il y a un côté enthousiasmant parce que c'est l'expression du fait que les gens ne sont pas résignés. Et que non, ils n'ont pas accepté une bonne fois pour toutes l'idée que leur vie serait organisée et structurée par l'occupation. Et finalement, donc, c'est nécessaire Il y a quelque chose de salutaire. Il y a quelque chose de salutaire parce que ça interrompt. Alors, pour combien de temps, je ne sais pas. Jusqu'où ça ira, je ne sais pas. Mais ça interrompt au moins provisoirement le processus qui était en cours depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que c'est le processus qui était en cours depuis une dizaine d'années, qui prolongeait hein, ce qui avait pu se passer auparavant? C'était un processus de dépossession lente de la population palestinienne de ses terres, c'est-à-dire que on pique un bout par-ci, on casse trois maisons, on annexe tel truc, on construit 10 maisons dans les colonies en plus, etc., etc. Sauf que petit à petit, quand vous mettez ça à la chaîne, bah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que quand vous construisez 1000 logements par an pendant 10 ans, ça fait 10 000 logements. C'est des logements où vous avez 5 ou 6 personnes, donc 50 ou 60 000 colons de plus. Et c'est comme ça que petit à petit, on est passé en 90 de 200 000 colons à 600 000 colons aujourd'hui. Et donc, il y avait cette espèce de train-train qui avait repris avec des moments où il y a toujours eu des manifestations, des mobilisations, la protestation, etc. Mais où il n'y avait pas cette espèce de stop, entre guillemets, qui était remis, de dire non, ce n'est pas tolérable. Et ce train-train des 10 dernières années, qui s'inscrit dans la longue histoire du processus de dépossession, mais bon, je n'ai pas le temps d'y revenir ici, on pourra y revenir dans la discussion, c'est le développement logique du projet qui avait précédé l'établissement de l'État d'Israël, c'est-à-dire le projet sioniste, qui est de prendre la terre, mais sans ses habitants. Voilà, c'est ça la racine du projet sioniste. On prend la terre, mais pas ses habitants. Parce qu'on va sur une terre, à l'époque, très majoritairement non juive, pour y construire un État juif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Petit à petit, en combinant immigration venue de l'extérieur et dépossession à l'intérieur, on va prendre la place des gens qui sont là. C'est ça l'histoire sur le long terme du conflit entre le sionisme et les Palestiniens. C'est l'histoire d'une dépossession et c'est l'histoire d'un remplacement. Vous avez des gens qui fantasment en France, vous savez, sur le grand remplacement. Il y aurait les vagues, les hordes d'immigrés musulmans, etc., qui seraient en train de petit à petit remplacer la population française, etc. Israël et la Palestine est un cas exemplaire de remplacement des populations. Avec des moments où les choses vont vite, 1948, on expulse 800 000 personnes à l'occasion de la Première Guerre. 1967, on occupe tout, mais on est obligé de reculer quand même après, parce qu'on n'a pas réussi à expulser tout le monde. Et là, on était reparti dans un truc assez lent, avec des moments où ça explosait, je pense notamment à Gaza, mais un processus de dépossession qui prolongeait ce qui se faisait avant et qui se formalisait de plus en plus par la constitution de ghettos, de petits, moyens ghettos palestiniens. Le ghetto de Gaza. Bon, ça, tout le monde connaît, voilà, entouré de partout, tu peux pas sortir. Et puis les ghettos de Cisjordanie, les villes, Ramallah, Bethléem, Hébron, etc., qui petit à petit, en fait, sont totalement coupées les unes des autres par des routes interdites aux Palestiniens, par des murs qui les encerclent, et où on avance ses pions, on regroupe les Palestiniens dans des zones de plus en plus petites, et pour ne pas que ça explose, on envoie du pognon à l'intérieur. Voilà, on envoie du fric, on envoie du fric, on envoie du fric. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, on nous parlait du miracle économique palestinien. À propos de la Cisjordanie, Ramallah, cette ville modèle, moderne, ça construit partout, etc., etc. Qu'est-ce que c'était Ramallah? C'était le ghetto modèle qu'on montrait au monde. Voilà, là, c'est le ghetto où ça marche bien. C'est celui où on met tout le fric. Pendant ce temps-là, on n'en met pas ailleurs. Et les gens crèvent, mais à Ramallah, on mettait plein de fric, et c'était le ghetto qu'on. Vous voyez, ils n'ont pas besoin d'un État, ils peuvent avoir des villes qui sont vachement bien, qui fonctionnent, etc., etc. Donc il y avait un miracle économique palestinien. C'était la crise du capitalisme dans le monde entier. Il y avait une économie qui tenait le choc, c'était l'économie de la Cisjordanie. Voilà. Tous les pays capitalistes développés étaient en train de s'écrouler, les banques, les machins, mais la Cisjordanie, qui est grande comme la Corrèze, vaillamment résistait, et elle avait des chiffres de croissance, des taux de croissance à deux chiffres, etc. Sauf que tout ça n'était qu'une vaste supercherie qui petit à petit s'est écroulée, et les ghettos résistent. Comme toujours dans l'histoire, les ghettos résistent. Ben là, c'est parti du ghetto de Jérusalem. C'est parti du ghetto de Jérusalem, et ça a essaimé dans les autres ghettos. Et finalement, ce train-train de la dépossession et ce train-train de l'enfermement, je ne dis pas qu'il va s'arrêter demain. Voilà, il va pas s'arrêter demain, étant donné les rapports de force. C'est pour ça que j'irai comme dernier point sur la solidarité, en tirant les bilans de tout ça. Ça va pas changer demain. Mais par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que là, ces dernières semaines, il y a eu, comment dire, un message envoyé par la jeunesse palestinienne à Israël, au reste du monde et au reste de la société palestinienne. Au reste de la société palestinienne. Parce que, et ça, bon, c'est un des trucs que, c'est pas pour le vendre, de toute façon, il est pas là, il est pas encore sorti, mais c'est un des trucs que moi j'ai essayé de travailler dans le dernier bouquin, c'est que ce processus de dépossession, de ghettoisation, pour qu'il soit stable, un minimum, il faut qu'il bénéficie à une partie de la population palestinienne. Voilà. Il faut qu'il y ait une partie de la population qui en bénéficie. Il faut qu'il y ait une partie de la population qui y trouve son compte. Sinon, on ne peut pas contrôler. Sinon, on ne peut pas contenir. Et donc, il y a toute une partie de la population palestinienne qui, volontairement ou non, consciemment ou non, bénéficie du fait que l'illusion d'un processus de paix soit maintenue. Qui sont ces gens qui bénéficient de cette illusion-là ? Les premiers sont les fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Et dire ça, c'est pas les critiquer individuellement, c'est établir une situation, c'est décrire une situation. Les fonctionnaires de l'autorité palestinienne sont les premiers bénéficiaires du fait que le processus de paix ou l'illusion se poursuive, que l'illusion de l'État indépendant se poursuive, parce qu'ils sont fonctionnaires et salariés d'une autorité qui est censée être appelée à devenir un futur État. Sauf que si vous dites, il n'y a pas d'autonomie en vrai, on est sous occupation, il n'y a pas de zone autonome, il n'y a pas d'indépendance, il n'y aura pas d'État, bah à quoi il sert cet appareil ? À rien. Il ne sert plus à rien. Donc vous avez aujourd'hui 190 000 fonctionnaires, ce qui représente à peu près 1 300 000 personnes, c'est-à-dire 30% de la population palestinienne, qui vit grâce au salaire versé par l'autorité palestinienne, qui ne peut verser ses salaires que parce que l'Union européenne lui donne de l'argent. Donc vous avez un tiers de la population palestinienne qui a été mise sous tutelle économique directe de l'Union européenne et des États-Unis. Et dire « ils en bénéficient » ne signifie pas dire « c'est des collabos ». C'est absolument pas le sens de ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe des bases matérielles qui permettent de comprendre pourquoi toute une partie de la population palestinienne, finalement, a pu non pas se résigner à l'occupation, mais accepter la situation qui s'éternisait, parce que finalement, un nouveau soulèvement qui pourrait questionner l'existence même de l'autorité palestinienne et des accords d'Oslo, eh ben c'est un soulèvement qui questionne ce qu'est leur vie quotidienne à eux, ce qu'est leur travail et ce qui leur permet de gagner leur vie. Une deuxième partie qui bénéficie du processus de paix et du maintien de son illusion, c'est tout ce qu'on regroupe sous le nom d'ONG. Les ONG, les grosses ONG, les moyennes ONG palestiniennes qui sont en lien avec des ONG internationales, ça représente aujourd'hui entre 50 et 60 000 salariés, ce qui est énorme aussi. Et ce sont des catégories de la population qui, pareil, finalement, ont besoin que soit maintenue l'illusion d'une paix possible, puisque les ONG palestiniennes, pour toucher de l'argent des pays donateurs et des fondations donatrices, doivent faire des activités qui vont vers la paix, l'établissement d'une société civile, etc., etc., en ne s'inscrivant pas dans la lutte contre l'occupation. C'est la condition aujourd'hui, quand tu es une ONG, pour recevoir des financements internationaux, c'est de ne pas avoir une activité qui est directement tournée contre l'occupation. Donc tu dois avoir des activités qui s'inscrivent dans le cadre de l'occupation. On va améliorer les conditions de vie des gens malgré l'occupation. Et sauf que si vous sortez de cette logique-là, et si vous dites « on rentre en confrontation avec l'occupation », vous n'avez plus de sous, vous n'avez plus d'activité, vous ne pouvez plus payer vos salariés, vous ne pouvez plus vous acheter à manger, et quand vous rentrez chez vous, vous dites au gamin « bah, je ne peux pas te payer tes études ». Et en fait, je ne vais pas m'étendre, mon avis, c'est partie des choses sur lesquelles on reviendra, en fait, le processus d'Oslo et le processus de paix n'a pas été juste un processus d'accentuation de la colonisation, d'accentuation de la répression. Ça a été aussi un processus de mise sous tutelle économique et de mise sous dépendance économique de secteurs entiers de la population palestinienne, mais une mise sous dépendance économique qui rimait avec mise sous dépendance politique. Et donc vous avez des gens qui aujourd'hui sont dans une situation très contradictoire où ils peuvent dire, moi j'en ai rencontré des dizaines il y a quelques années, qui disaient, moi j'aimerais bien qu'on reprenne la lutte contre l'occupation, mais je peux pas. Voilà, je peux pas. Parce que si je m'y remets, je perds tout. Je perds tout. Ce qui est quelque chose qu'on peut tous comprendre. Qu'on peut tous comprendre. Qu'à un moment, c'est pas facile de dire, bah je prends le risque. Voilà, je prends le risque de tout perdre. Surtout quand t'es palestinien, que ça fait plus de 60 ans que ça se passe, et que la dernière fois qu'il y a eu une mobilisation collective un peu forte à la fin de l'année 2000, ça s'est soldé par un carnage. Ça s'est soldé par un carnage. Et bien finalement, c'est pas étonnant que ce soit les jeunes là qui déboulent. Parce que les jeunes, un, ils n'ont pas connu ça. Voilà, ils n'ont pas connu, ou alors ils ne se souviennent pas. Ils étaient petits, ils étaient vraiment jeunes. En septembre 2000, voilà. C'est-à-dire, si t'as moins de 15 ans, t'as pas connu. Sinon, t'avais 3, 4 ans. Il n'y a pas les souvenirs. Il n'y a pas les souvenirs traumatisants de ces époques. Que moi, pour le coup, en ayant vécu là-bas, on a connu, tous les gens qui sont allés là-bas le savent, ce que c'était les années 2001, 2002, 2003, les tanks à tous les coins de rue, le couvre-feu permanent, les arrestations par milliers, les flics israéliens qui rentraient dans les camps de réfugiés et qui appelaient au mégaphone tous les hommes de 15 à 45 ans à descendre et qui les alignaient dans les écoles, leur bandaient les yeux, leur mettaient des menottes et leur tatouaient des numéros sur les bras, charmant. Avec des centaines d'hommes qui étaient alignés comme ça dans les écoles, etc. Ils n'ont pas connu tout ça. Donc ils n'ont pas finalement cette pression psychologique et ils n'ont pas non plus la pression matérielle de ma survie en dépend. Non, aujourd'hui leur survie dépend du fait qu'ils se révoltent. Et c'est pour ça que je dis que c'est aussi un message vis-à-vis du reste de la société palestinienne. C'est pas quelque chose de dire aux autres vous êtes des lâches, vous êtes des traîtres, ou c'est pas ça. Mais c'est plutôt nous on peut pas, voilà. Nous on ne peut pas vivre comme ça et nous on y va. Nous on y va et on est prêt à y aller. Suivez-nous, ne nous suivez pas, mais nous on y va et on est prêt à y aller. Ce qui m'amène à ce sur quoi je voulais conclure, sur la solidarité finalement. Parce que pour moi la solidarité elle dépend de tout ça. Elle dépend de l'analyse de la situation, de l'analyse des dynamiques et d'une compréhension de ce qu'il y a de nouveau et de ce qu'il y a d'ancien dans ce qui est en train de se passer. Depuis une dizaine d'années, on est sorti, ou même depuis peut-être une quinzaine d'années, on est sorti de la solidarité, une dizaine d'années, qui consistait à dire ce qu'il faut, c'est que les Israéliens raisonnables et les Palestiniens raisonnables, on les soutienne pour qu'ils arrivent à gagner l'hégémonie en Israël et en Palestine pour arriver à un accord qui serait un accord de compromis honorable pour tout le monde. Ça, c'est un truc qui était très dominant finalement dans les années 90 et au début des années 2000. C'est quelque chose, on est passé à une étape à partir de 2005, et je crois que les bombardements sur Gaza en 2008-2009 ont un peu tiré la sonnette d'alarme pour dire non, il n'y a pas de... on ne peut pas discuter avec les gouvernements d'extrême droite, quoi. Donc il n'y a pas de négociation possible, etc. Ça a été la montée en puissance de deux choses. La campagne de boycott et le développement de projets que moi j'ai toujours trouvé intéressant, même s'il faut toujours être prudent, mais le développement de projets qui n'étaient pas des projets trop ambitieux. C'est-à-dire on va bosser avec... un centre culturel dans un camp de réfugiés, on va bosser avec une coopérative agricole quelque part, on va bosser avec une petite ONG pas dépendante des financements venus des États-Unis, on va bosser avec des choses comme ça. Et vous avez beaucoup de choses qui se sont développées dans le mouvement de solidarité en France à partir des années 2000. Ça existait déjà avant, mais ça s'est multiplié de ces petits, entre guillemets, projets, mais qui sont des grands projets. Qui sont des grands projets parce que c'est soutenir les initiatives à la base, et ça c'est essentiel, à la base, pas soutenir le ministère de l'agriculture palestinien. Un mouvement de solidarité n'a rien à faire avec des ministères. Moi je n'ai jamais compris comment on pouvait fonctionner comme ça. C'est pas soutenir des grosses ONG qui ont des budgets de dizaines de millions de dollars, et toi t'arrives fièrement avec tes 5000 euros que t'as collectés sur ton marché, et les gars sont contents, ils vont pouvoir mettre des nouvelles jantes en alliage sur les 4x4 des permanents de l'ONG. Et c'est véridique, hein, c'est comme ça que ça se passe à Ramallah. Donc ces petits projets, ces petites choses qui finalement témoignaient d'une compréhension du fait que le mouvement palestinien était en train de muter, qu'il y avait une ancienne génération qui n'était plus là, Arafat était mort, etc., etc., et qu'il n'y avait pas de nouveau leadership. Et donc, multiplication de ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut continuer à se concentrer là-dessus. Se concentrer là-dessus, c'est-à-dire être attentif à ce qui se passe, être attentif aux acteurs palestiniens eux-mêmes, entendre ce qu'ils demandent, c'est toujours le point de départ quand même, et comprendre que quand on est confronté à une entreprise de dépossession, à une entreprise de destruction du lien social, à une entreprise finalement de destruction de la société palestinienne, toutes les initiatives venues d'en bas qui visent à construire, maintenir, développer du lien social, du collectif, que ce soit sur des questions culturelles, sur les questions des droits des femmes, sur les questions agricoles, sur des questions, etc. Toutes ces initiatives-là, il faut y être attentif, parce que c'est sur cette base-là que se reconstruira un mouvement national palestinien, comme ça a toujours été le cas dans l'histoire des mouvements de libération nationale. Les mouvements de libération nationale ne se sont jamais construits d'abord en disant on est le mouvement de libération nationale. Bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça se passe. De même que les partis révolutionnaires ne se construisent pas en disant on est le parti de la révolution. Non, c'est une activité et petit à petit les choses peuvent se développer. Donc ça, c'est le premier élément de la solidarité. Le deuxième, bah, c'est de mesurer les rapports de force. Aujourd'hui, l'État d'Israël est un État ultra dominant, surarmé, soutenu au niveau international, dirigé par une bande de malades. Et je le dis avec beaucoup de sérieux. L'État d'Israël est un État dirigé par une bande de fous furieux. Droite et extrême droite sont les courants dominants en Israël. Et hier soir, chez Tadi, j'ai cité un truc de Zev Sternel, l'historien israélien, spécialiste du fascisme et de l'extrême droite, qui avait écrit une tribune dans le Haaretz il y a 2 ans. Le titre de sa tribune était « De l'art de faire passer Marine Le Pen pour une gauchiste ». Et le contenu de sa tribune était une explication de en quoi la droite et l'extrême droite israélienne étaient des courants qui étaient beaucoup plus dangereux, beaucoup plus nationalistes, radicaux, xénophobes, etc., que le Front National de Marine Le Pen, venant de Zev Sternel. Et il en concluait que, sur le champ politique israélien, le Front National serait probablement au centre, voire à gauche. Et c'est pas une plaisanterie. Vous vous souvenez en 2001 quand Ariel Sharon a été élu? Quand Ariel Sharon a été élu en 2001, il y a énormément d'analystes qui ont dit l'extrême droite arrive au pouvoir en Israël, c'est Sharon, c'est le général Sharon, Sabra et Shatila, etc. Vous savez où ils sont sur le champ politique israélien, les héritiers d'Ariel Sharon aujourd'hui? On les appelle le centre. On les appelle le centre. Le parti que Sharon avait fondé s'est allié avec les travaillistes et c'était considéré comme le centre-gauche, le parti fondé par Ariel Sharon. Donc, on a un gouvernement israélien qui est dirigé par des gens, le ministre de l'Éducation, qui déclare en réunion du Conseil des ministres, moi des Arabes j'en ai déjà tué et je vois pas où est le problème. Voilà, ministre de l'Éducation, ça donne une idée. Et donc d'où l'urgence et l'impératif de la campagne de boycott de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, il faut que les choses soient claires dans les consciences au niveau national, au niveau international, que non, il n'y a pas de possibilité de compromis avec cet État aujourd'hui et que le seul moyen éventuellement de faire entendre raison à quelqu'un là-bas, c'est l'isolement, c'est la mise à l'index, c'est comme il avait été fait avec l'Afrique du Sud, de dire cet État-là ne peut pas, ne doit pas être soutenu d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit militaire, économique, culturelle, etc. Il doit être mis au banc des nations. C'est le meilleur service qu'on puisse rendre aux Palestiniens aujourd'hui, étant donné la défaveur du rapport de force, étant donné l'isolement qu'ils ont face à cet État. Et dernier mot, c'est quelque chose de plus général sur la solidarité. Pour moi, la solidarité, je vous l'avais compris, je vous l'ai dit au début, c'est quelque chose qui part de l'analyse concrète d'une situation concrète, comme disait l'autre, Lénine. Mais c'est aussi quelque chose qui repose sur des principes. Qui repose sur des principes intangibles, quelle que soit l'évolution de la situation concrète. Pour moi, le premier de ces principes, c'est que, quelle que soit la direction dont se dotent les Palestiniens et quels que soient les moyens dont ils se dotent pour lutter, on soutient leurs droits. On soutient leurs droits. Ça ne change rien, le fait qu'ils choisissent la lutte armée ou pas la lutte armée, sur le fait qu'on soutient leurs droits. Après, on peut avoir éventuellement des discussions critiques, fraternelle avec les Palestiniens, à la condition qu'on soit prêt, si nous, on pense qu'il faut discuter de comment les Palestiniens doivent lutter, qu'on soit prêt à accepter qu'en ce moment, par exemple, à Hébron, il y a des gens qui sont comme nous, réunis, et qui discutent de ce que devrait faire la gauche radicale française pour peser aux prochaines élections. Par exemple, si on n'est pas prêt à accepter ça, on n'est pas prêt à discuter de comment les Palestiniens doivent lutter. Il y a de la réciprocité, c'est une population comme nous, qui a des droits, qui a des débats, qui a des stratégies. On peut discuter avec eux, on peut critiquer, mais à condition qu'on ne se considère pas dans une position de supériorité par rapport à eux. Moi, je reste convaincu que les opprimés qui vivent l'oppression directement sont les mieux placés, en général, pour savoir quels sont les moyens de sortir de l'oppression. Et le deuxième principe intangible, eh ben, c'est tout simplement de considérer que c'est la solidarité avec les Palestiniens qui doit primer dans l'activité du mouvement de solidarité avec les Palestiniens. Et c'est-à-dire que la solidarité avec les Palestiniens ne doit pas être subordonnée, et les choix que les uns ou les autres peuvent faire ne doivent pas être subordonnés à des questions qui n'ont rien à voir avec la solidarité avec les Palestiniens. C'est-à-dire qu'un mouvement de solidarité avec la Palestine, c'est un mouvement qui se pose la question de comment être efficace dans la solidarité avec les Palestiniens. C'est pas un mouvement qui se dit, alors si eux font ça et si nous on fait ça, est-ce qu'on va pas perdre du monde? Est-ce que c'est nous qui... Non, non. Ce qui doit nous guider, c'est non pas de faire semblant d'être tous d'accord. On peut s'engueuler, il n'y a pas de problème. On peut s'engueuler, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est que nos engueulades, elles restent circonscrites à un cadre. Qu'est-ce qui est de mieux pour les Palestiniens? Pas qu'est-ce qui est mieux pour nous ou pour telle ou telle organisation. Voilà.